On va tout de suite s'entretenir avec Alexandre Leduc, député de Québec solidaire pour Hochelaga-Maisonneuve, porte-parole du deuxième groupe d'opposition en matière de lutte contre l'itinérance, en matière de laïcité, en matière de sécurité publique, en matière de solidarité sociale et en matière de travail. Bonjour, monsieur Leduc.
Bonjour.
Alors, on va parler de profilage racial et de plan d'action. Vous êtes là-dessus depuis quelques années. Est-ce qu'il y a eu des nouveaux développements?
Mon Dieu, oui et non. Il y a des développements en ce sens que je pense que le débat social, la conversation sociale sur ce sujet-là n'a jamais été aussi forte, en quelque sorte, n'a jamais été aussi présente.
Oui.
Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Après ça, pour ceux et celles qui le vivent, ce profilage racial-là, probablement qu'ils trouvent que ça va pas assez vite, qu'on n'a pas beaucoup bougé depuis quelques années. On attendait beaucoup d'un gros rapport qui s'appelait le Livre vert que Madame la ministre Geneviève Guilbeault, la ministre de la Sécurité publique, avait commandé à quelques experts sur la question policière au sens très large, là, qui comptait un chapitre, ou en tout cas quelques pages sur la question du profilage. On avait quand même beaucoup d'attentes, notamment à la question des patrouilles mixtes, qui est à la fois un policier ou un policière, bien sûr, et un travailleur ou une travailleuse sociale qui patrouille ensemble pour que ce ne soit pas toujours une réaction, je dirais, de sécurité publique, de police qui soit celle que l'on met de l'avant quand on rencontre une personne qui est en crise ou en détresse. Mm-hmm. Il y avait rien donc dans le livre vert sur la police, donc c'est certain que là-dessus ça a été une grosse déception.
Oui, comme en France où il y a le SAMU social, comme on appelle, qui est très développé. Ici, ça n'a jamais passé, cette idée-là d'avoir beaucoup plus de gens qui s'occupent du psychologique, de l'état mental. C'est plus la force puis les fusils, quoi.
Oui, puis tu sais, il y a eu la fameuse police de quartier qui a quand même certains succès dans différents arrondissements, dans différents quartiers, mais ça demeure des policiers, la police de quartier, des policiers avec une arme la plupart du temps. Et c'est un peu de ce schéma-là qu'on essaie de sortir pour dire que peut-être que le policier ou la policière n'est pas nécessairement formé ou équipé d'un point de vue donc de formation pour répondre à toutes les situations. Et que, bien sûr, c'est le premier répondant, c'est quelqu'un qu'on a la tendance à appeler rapidement, immédiatement. Mais peut-être que dans plusieurs situations, un travailleur social ou une travailleuse sociale pourrait être beaucoup plus efficace pour désamorcer une situation et éviter une escalade. C'est tout un art, l'art de la désescalade, avec des personnes avec qui on ne peut pas tout à fait rationaliser parce qu'ils sont en crise, parce qu'ils sont en situation de consommation, parce qu'ils n'ont pas dormi depuis 3 jours, parce qu'ils sont en situation d'itinérance, etc. Il y a des projets pilotes au Québec. Moi, j'ai eu la chance d'en visiter un à Val-d'Or, entre autres, où il y a toute la question de l'itinérance à Val-d'Or, entre autres avec certaines communautés autochtones. Et il y a donc un poste de police là-bas qui a développé beaucoup des patrouilles mixtes, donc un policier, un TS, comme on dit dans le jargon, et ça donne des résultats intéressants. Et là où on aurait aimé que le gouvernement aille un peu plus loin, c'est exporter ce modèle-là. Il commence à y avoir quelques initiatives à Longueuil avec un directeur de police assez dynamique, M. Daguerre, qui met cette initiative-là au jeu là-bas. Mais je me serais attendu à ce que ça soit repris à plus grande échelle et qu'il y a de plus en plus de régions, de villes, d'arrondissements, de quartiers qui se saisissent, bien sûr, avec un peu d'argent pour de la formation en parallèle avec le gouvernement du Québec, mais qui se saisissent de cette opportunité-là pour essayer d'aller de l'avant avec un nouveau modèle, parce qu'il faut se rendre à l'évidence, là, malgré que de plus en plus les crimes se font plus rares, il y a de moins en moins de crimes là, d'un point de vue statistique. Malheureusement, les interpellations, eux, ont complètement continué à augmenter, à exploser là, en termes de statistiques toujours. Alors, il y a quelque chose qui cloche là dans ces statistiques-là, comment le nombre de crimes descend, mais que le nombre d'interpellations augmente.
Oui.
Évidemment, on fait face ici à souvent une question de profilage. Et c'est pas quelque chose qui va se régler du jour au lendemain. Il faut y mettre beaucoup de volonté politique. Et pour l'instant, je pense qu'on n'en a pas assez du côté du gouvernement.
Volonté politique, mais aussi mettre des mots. Cette semaine, on a vu l'Ordre des infirmiers et des infirmières dire qu'il y avait du racisme systémique, ce qui est vraiment un grand pas. Est-ce qu'on pourrait dire aussi qu'à Montréal, il y a du profilage raciste et systémique au sein de la police?
Oui, ben ça me semble une évidence. C'est plutôt une personne qui soutiendrait l'inverse, qui aurait le fardeau de la preuve, à mon avis. Ne serait-ce que par comment on devient policier, les gens qui font ce parcours-là, on n'a qu'à regarder la provenance, il y a tout un retard qui a été pris dans les services de police, là, autant la SQ, CTVM et autres, par rapport à la diversité dans l'embauche, que ce soit aussi homme-femme, mais aussi évidemment la diversité là, d'un point de vue de l'origine culturelle, entre autres. Mm-hmm. Et nécessairement, ça produit des schémas, ça produit des interventions, ce qu'on écoute à la télévision, ça peut imprégner aussi certaines impressions. Et puis, c'est pas. Moi, je veux pas non plus être celui qui crache hein, sur la police à la longueur d'entrevue ou de journée. C'est pas un métier simple, c'est pas un métier facile. J'en connais beaucoup des policiers qui sont de bonne volonté et qui rentrent dans la police pour des bonnes raisons. Mm-hmm. Cela étant dit, c'est des fois les bonnes raisons, c'est pas suffisant. Puis ça nous met pas à l'abri d'une erreur, ça nous met pas à l'abri de certains préjugés dont on peut avoir hérité d'un point de vue de société, d'un point de vue de famille aussi parfois. Alors pour ça, il faut des mesures étatiques, des mesures. D'organisation. Je le sais que les directions de la SQ du SPVM prennent la chose au sérieux. Nous, on les questionne quand ils viennent. Hein, vous connaissez un peu la joute parlementaire, l'étude des crédits. À chaque année, quand la directrice de la SQ ou le directeur, quand c'est un homme, vient, on lui pose toutes sortes de questions pour faire le suivi de cet enjeu-là, du profilage. Qu'en est-il? Où sont rendues les statistiques? Où sont rendues l'évolution de votre politique de diversité dans l'embauche? Ils sont toujours prêts à répondre à nos questions. Ça veut dire qu'elles les ont vues venir. C'est une bonne chose, j'imagine. Ça doit participer à maintenir la conversation à haut niveau. Et ça fait en sorte qu'on maintient aussi une certaine pression sociale. Vous savez, on a une police hein, parce qu'il faut une certaine distance avec dans les événements violents. Il faut qu'on ait quelqu'un qui soit capable de se rendre rapidement, qui soit capable de gérer des situations très stressantes, très dangereuses. Ça peut pas être monsieur, madame, tout le monde qui se fasse justice soi-même, évidemment. Cela étant dit, à grande responsabilité, grand devoir aussi. Alors, il faut être vigilant, il faut faire des suivis. Il y a toutes sortes de groupes dans la société civile aussi qui sont actifs sur le sujet. Moi, j'en rencontre fréquemment. Je pense à la Ligue des droits, entre autres, la Ligue des droits et libertés.
Oui.
Ils sont très actifs. Et il y a un angle qui est émergé depuis un an, qui est la question du financement du communautaire. Parce que quand on parle de prévention du crime, si on veut éviter qu'on ait besoin d'avoir de la police, je ne sais pas si ça va arriver un jour, si on n'en a plus besoin, mais d'ici là, en tout cas, on peut certainement travailler à la prévention. Mm-hmm. Ben, en tout cas, il faut certainement parler du communautaire. Et le communautaire fait un grand travail pour rassembler des jeunes, pour rassembler les personnes, les communautés marginalisées et tenter le plus possible de les éloigner des chemins qui peuvent les mener à la criminalité. On pense entre autres à la Maison d'Haïti, à tous les groupes en itinérance, à tous les groupes de jeunes qui font un travail incroyable, qui font un travail monumental, fondamental, mais c'est complètement sous-financé. Le milieu communautaire, c'est des grenailles qu'on leur donne par rapport à ce qu'ils ont comme mission et comme importance sociale.
Et comme besoin aussi.
Et là-dessus, il y a aussi beaucoup, beaucoup de travail à faire du côté du gouvernement.
Alors, en terminant, on pensait encore la semaine passée démanteler encore dans un parc les sans-abri. En ce moment, on sait qu'il y a une crise de logement, même si le gouvernement en place refuse d'utiliser la crise de logement. Mais ça y est, là, il y a une liste d'attente encore de 50 personnes à Montréal qui n'ont toujours pas trouvé de logement. Et les sans-voix, les sans-abri, ils sont là dans un parc, puis on les déménage à chaque fois. Je sais que c'est un dossier qui vous préoccupe énormément.
Ah oui, tout à fait. Moi, j'ai eu deux démantèlements très durs dans les deux dernières années. Là, celui sur la rue Notre-Dame, qui était bien vu, bien connu là, pour sa proximité avec la rue Notre-Dame, donc la rue du même nom, et celui qu'on a vécu il y a quelques mois à peine là, au Boisé Steinberg. Et là, il y en a un troisième qui a eu lieu en effet en début de semaine dernière, un peu plus dans le coin du port, en fait, là, proche du parc Bellerive. Et c'est regrettable parce que c'est des gens qui, au final, ne dérangent personne, des gens qui sont des déshérités, qui ne cadrent pas nécessairement dans les politiques, hein, dans les refuges. Les refuges, c'est pas un 4 étoiles, c'est pas la grosse vie. C'est dur, les refuges. Il y a des politiques assez strictes, puis on peut les comprendre, là, c'est pas quelque chose qui est facile à gérer. Mais c'est pas tout le monde qui cadre dans ces politiques-là, ne pas boire, ne pas avoir d'animaux de compagnie, se lever à telle heure, sortir toutes ses affaires, etc. Alors, il y en a qui préfèrent, surtout quand il fait beau et chaud, aller à l'extérieur et se faire un petit chez-soi, de se faire une petite communauté, c'est important ça aussi. Et alors que le gouvernement, en effet, peine à financer adéquatement une vraie politique à la hauteur de la situation de logement social, bien, on préfère, encore une fois, du côté du ministère des Transports, aller faire démanteler des campements qui vraiment là, ne dérangent personne. Moi, je lui avais proposé il y a quelques mois là, de faire un pacte social, qu'on les encadre un peu, ces campements-là, qu'on envoie des travailleurs sociaux, qu'on envoie les services d'incendie, faire des conseils, des formations sur la prévention des incendies, sur la sécurité, mais qu'on arrête de jouer au chat et à la souris, parce que démanteler un campement, là, vous pensez qu'ils vont où après, là, ils vont en refonder un autre campement un peu plus loin. Et il y en a d'autres, des campements, au moment où on se parle, ils sont juste plus discrets, peut-être moins dans l'œil de la caméra ou du débat public, alors moins gênant en quelque sorte pour le gouvernement. Alors c'est regrettable et j'espère vraiment qu'au moins ça nous serve à se rappeler qu'il y a toujours un grand problème d'itinérance, un grand problème de logement à Montréal et qu'au-delà des mots, il faut s'y attaquer.
Alors il faut aussi penser aux élections municipales à ce niveau-là, il n'y a pas juste donc provincial, mais j'espère, avez-vous eu de l'écoute au niveau des demandes, au niveau des personnes qui se présentent au municipal, une écoute attentive pour veiller à ce qu'il y ait moins de sans-abri dans les campements?
Sur la question des campements, ma proposition n'a pas été particulièrement bien reçue du côté des différents partis municipaux à Montréal, en particulier du côté du parti de M. Benicoda, qui, vous rappellerez peut-être, est allé faire une conférence de presse sur le campement, là, ce qui était assez de mauvais goût, à mon avis. Mais bon, ça lui appartient. Mais après ça, il y a comme une peur, je pense, des décideurs publics par rapport à ces gestions de campements-là. Une peur fondée quand même, là, si jamais il y avait un accident et quelqu'un il mourait, passait au feu, là, par exemple. Je pense qu'ils ont tous peur de se faire accuser par d'autres partis, par des partis d'opposition, d'être responsables de la mort de ces personnes-là. Okay. C'est pour ça que dans mon idée de pacte social, il faut une espèce de conscience collective et de conscience entre les différents partis pour se dire, ben là, si on va dans cette direction-là, donc une certaine acceptation, un certain encadrement des campements publics, ben il faut aussi se restreindre comme parti d'opposition. De commencer à vouloir jouer le jeu du blâme et de faire porter des accusations à qui mieux. Mais là-dessus, c'est pas évident de demander à un parti politique de pas jouer dans ces mauvais films-là. Alors, on continue la bataille, on continue à être proche des groupes, on essaie de revendiquer que tout le monde ait droit à la dignité, à l'espace, droit de cité, la ville est pour tout le monde. Et que de conscientiser les esprits que même si on démantèle un campement, le problème n'est pas réglé. Moi, ça m'aide pas à mieux dormir de savoir qu'on a démantelé un campement. Bien au contraire, je me demande où est-ce qu'ils sont rendus et quel autre service les attend dans les prochains jours.
Et quelle société on est de faire ça. Merci beaucoup, Alexandre Leduc. Alexandre Leduc est député de Québec solidaire pour Hochelaga, Maisonneuve. Merci.
Bonne journée, merci.